France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà ensemble pour 1h30 de culture sous toutes ses formes. Au menu du jour, à 13h, je recevrai Joseph Incardona, le romancier suisse, revient en cette rentrée littéraire avec un roman singulier. Nous y croisons des sirènes, des riches qui ne savent plus très bien quoi faire de leur argent, des paysages paradisiaques et derrière la carte postale et l'humour apparaît une critique caustique de notre monde capitaliste et de ses ravages. Mais tout commence ici par l'art délicat de la critique. Comme chaque mercredi, nous parlons cinéma avec deux sorties du jour, l'étranger de François Ozon. Le réalisateur s'attaque au chef-d'œuvre de Camus, puis Smashing Machine réalisé par Benny Safdie sur une légende du MMA des années 90. Autour de la table, ce midi, deux critiques averties. Charles Bosson, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes critique, essayiste et documentariste. Et Adrien Desnouettes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique et enseignant. Bienvenue à tous les deux.
Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait?
Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser.
Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. D'abord, regrettez-vous votre acte?
Nous voici de retour à Alger, nous sommes en 1938. Meursault est un jeune homme qui, comme la célébrissime première phrase du roman de Camus nous l'apprend, va enterrer sa mère. Meursault, ce garçon énigmatique, indifférent à tout, qui se retrouve condamné à mort, est devenu un classique des cours de français de lycée. Ozon, lui, choisit le noir et blanc, écrasé de soleil, et assume une certaine simplicité. Adrien Desnouettes, un premier avis rapide.
Alors un premier avis rapide, j'entends lire ça et là que le film est très fidèle à l'œuvre d'origine. Moi j'aurais tendance à même le trouver un peu servile et cosmétique. Je ne comprends pas où est la nécessité de cette adaptation, je ne comprends même pas où est le désir d'Ozon. Alors qu'en fait je pense qu'à son meilleur, Ozon aurait peut-être été la meilleure personne pour le faire.
Charles.
Alors je dirais un peu aussi un bel objet esthétique, mais un peu robotique, mais magnifiquement porté par son acteur principal Benjamin Voisin.
Alors Adrien, développez donc votre pensée cosmétique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est trop beau?
Non, c'est pas trop beau. C'est alors le film est filmé dans un noir et blanc assez splendide qui répond aussi à une utilité, c'est-à-dire que c'est difficile de retrouver évidemment la patine du Alger de 1939 parce que le roman est écrit en 1939. Aujourd'hui, donc en fait, c'est tourné à Tanger au Maroc. C'est le noir et blanc sert à ça, mais en même temps, évidemment, il y a un traitement assez, il y a une forme de sublimation du sujet qui aurait pu être très intéressante, mais pour ne rien vous cacher, en fait, c'est presque ce qui me manque le plus. C'est-à-dire que j'aurais aimé que justement cette espèce d'élan à sublimer quelque chose, en fait d'élan à interpréter quelque chose, soit plus présent. Je ne cite pas la personne, mais quelqu'un m'a demandé avant cette chronique, m'a demandé si ça ressemblait à la publicité, à quoi Didio Armani, à quoi la bande-annonce laissait croire. Et en fait, il se trouve que un petit peu, mais pas assez selon moi. Moi, j'aurais aimé en fait que François Ozon s'empare vraiment de ce sujet-là et nous fasse le grand film interprété de 2025 de cette œuvre-là, un peu monumentale et un peu intimidante.
Mais là, ce que vous dites, c'est une critique esthétique?
Comment ça?
Quand vous parlez de ce noir et blanc, quand vous parlez de cette pub à laquelle ça vous fait penser et que vous dites finalement il n'est pas allé assez loin, vous voulez dire quoi? Esthétiquement, il aurait pu aller plus loin?
Non, je veux dire vraiment sur l'interprétation. Ça en passe forcément par un traitement esthétique, ça en passe par un système formel. Mais cette espèce de noir et blanc, là où je trouve seulement cosmétique et pas suffisamment nourri d'intention, c'est parce que, je vais vous citer quelque chose. En fait, le moment, voilà, le pinacle du roman, c'est évidemment la scène de meurtre. Je ne vais pas spoiler tout le monde.
On dévoile rien. Oui,
on est d'accord qu'on dévoile rien. C'est l'histoire d'un personnage qui enterre sa mère, qui a l'air absolument indifférent à tout et qui se rend coupable d'un meurtre, le meurtre d'un arabe. Il est qualifié comme tel. Et il se trouve que dans le roman, c'est déjà le grand moment c'est le pinacle littéraire du roman. Il se trouve que c'est aussi le pinacle esthétique du film. C'est-à-dire que c'est un moment où, en fait, c'est le seul moment du film où je sens que François Ozon redevient le François Ozon que j'ai pu apprécier ça et là dans sa filmographie. Pas toujours. Je trouve qu'il y a un François Ozon un peu flemmard et un François Ozon qui a des fulgurances. Et là, je vois une fulgurance. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends...
Sur la scène du meurtre.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un traitement qui est assez beau, qui en fait nous fait comprendre un frémissement qui n'existait pas jusqu'ici dans le film, à savoir qu'il y aurait peut-être l'expression dans ce meurtre d'une pulsion de désir. En fait, d'une pulsion de désir qui pourrait être refoulée et donc une forme de réponse à un dégoût. Replaçons-nous bien sûr dans le contexte de l'écriture du roman, la société coloniale française en Algérie en 1942. Et donc les Arabes sont considérés comme des sous-citoyens et les Français peuvent exprimer, et le film ne le cache pas, le roman ne le cache un peu plus d'ailleurs, mais peuvent exprimer une forme de dégoût par rapport à cette espèce de société de caste. Et donc il y a une espèce de dégoût qui pourrait s'exprimer ici, et je sens que le film, à ce moment-là, en fait, je sens que François Ozon pourrait faire affleurer quelque chose de très érotique. Et il le fait un peu dans cette scène. Le problème, c'est que ça n'existe pas avant, ça n'existe plus du tout après, et qu'en fait, cette espèce de moment où quelque chose frémit, quelque chose arrive, quelque chose survient, et je sens une nécessité, en fait, je sens une libido de la part de François Ozon pour le sujet, je me dis, ah mais oui, bien sûr, c'est là que François Ozon peut nous apporter quelque chose. Là encore, je ne spoile rien et je n'évente rien. Pour ceux qui connaissent un peu François Ozon, vous savez que François Ozon est un cinéaste qui revendique évidemment, qui n'est pas réductible à ça, mais qui est un cinéaste qui a filmer beaucoup d'intrigues homosexuelles, et donc je pense qu'il aurait pu beaucoup plus interpréter et tirer ça vers quelque chose d'homo-érotique. Non pas simplement pour la forme, précisément parce que ça aurait pu, en 2025, éclairer ce roman et cet acte un peu incompréhensible qui le reste à l'état du roman. C'est-à-dire qu'on ne comprend jamais vraiment pourquoi, en fait, le personnage passe à l'acte contre cet arabe. Et moi, je pense que cette lecture-là, homo-érotique, si je suis un peu méchant, je dirais « Allez, vas-y François, t'aurais pu nous faire ton vrai gros porno gay », j'aurais aimé le voir, en fait. J'aurais aimé voir ça, à ce moment-là, sur ce livre-là. C'est-à-dire, sur ce livre-là, que le livre soit un petit peu trahi.
Sur ce film
Non, le livre.
Sur ce livre.
Que l'adaptation du roman en film, aujourd'hui, en 2025, trahisse un peu plus cette espèce de monument inattaquable que, par ailleurs, je ne trouve pas, j'ai jamais trouvé si intéressant que ça, L'Étranger.
Charles, sur l'adaptation, justement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Fidèle, trop fidèle, servile?
Écoutez, moi, je vois un film de très, très bon élève. C'est-à-dire, je pense que c'est un film qui pourrait être montré à des lycéens. Et je dis ça vraiment de manière positive. C'est-à-dire que c'est un film qui peut, il y a une sorte de mots-clés, il y a des concepts clés, comme ça, qui apparaissent. On va donner un nom, le film se termine par le nom qu'on donne à cet arabe qui n'est jamais nommé dans le roman, mais là on reprend une idée de Kamel Daoud dans son morceau contre-enquête. Moi j'ai lu la BD qui est absolument formidable de Jacques Fernandez, L'Étranger, qui est quasiment un storyboard du film. C'est-à-dire que pour moi, Ozon pompe et pioche un peu chez tout le monde et peine un petit peu à trouver son film. Moi, j'aime aussi beaucoup cette scène du couteau. Dans le livre, on dit que le soleil gicle sur la toile. Visconti la filme un peu de la même manière, avec aussi cet homme un peu lascif face à Meursault qui provoque son désir. On parle de Diallo, le chef-op Manuel Dacos a fait les films du duo Katef-Orzani, comme Laisser bronzer les cadavres. Donc, il est très doué aussi pour mettre en scène cette imagerie. Mais pour moi, Ozon fait deux films. Il y a un film visuel, et ce qui est pour lui visuel, c'est vraiment montrer, c'est filmé à la manière d'un auteur. Et là, on a un problème aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une sorte de cinéma d'auteur surgonflé, un peu premium. On a l'impression qu'il veut faire du Antonioni. Et moi, en fait, je pense en permanence à une série que j'avais adorée, qui était la série Ripley de Steven Zaillian, qui montrait vraiment de manière beaucoup plus
diabolique. Également dans ce noir et blanc,
ce personnage mystérieux. Alors là, le mot érotisme était vraiment poussé, on le comprenait beaucoup mieux. Mais vraiment avec des plans fixes, on faisait vraiment attendre le spectateur. Et pour moi, le film est terminé quand, après cet acte, quand on passe justement dans le procès, dans les personnages, dans les rôles secondaires, qui est un peu une zone de confort pour Ozon, qui est un cinéaste qui aime beaucoup la théâtralité. Alors voilà, c'est visuel ou théâtral. Et pour moi, le film là-dessus est vraiment, c'est un 18 sur 20, mais ça fait pas un grand film.
Puisque vous avez cité Visconti, peut-être qu'on peut parler des autres tentatives avant celle d'Ozon. Bien sûr. Est-ce que selon vous, c'est une question commune, finalement, ce livre de Camus est cinématographique? Moi, j'ai l'impression que non. Adrien.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et je vais même... Moi, j'ai un contentieux avec ce livre, en fait. C'est un chef-d'œuvre de la littérature, en tout cas considéré comme tel, et même un chef-d'œuvre de vente. Je crois que c'est le troisième livre le plus lu après le Saint-Exupéry, tout ça. Et en fait, très honnêtement, je n'ai jamais compris la raison de ce succès-là. Mais même d'un point de vue littéraire. C'est-à-dire que je trouve que Camus est un auteur, à la fois sur le plan philosophique et sur le plan littéraire, même sur le plan littéraire, assez plat. C'est quelqu'un que je trouve même assez poseur. Et la substance de ce livre, je trouve prise comme ça, littéralement, dans d'une adaptation assez assez fidèle, disons-le, je trouve qu'elle ne elle n'a pas les ressources en fait pour faire un bon film. J'aurais aimé en fait que le cinéma traite ça de manière beaucoup plus franc, c'est-à-dire qu'il faille trouver des ordures, trouver des salauds, trouver du dégoût, trouver de la matière sale. C'est-à-dire que les élucubrations philosophico absurdes qui sont censées nous prêter à voilà réfléchir à l'absurdité de l'existence ou ça ne fonctionne pas en film. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je m'ennuie pendant tout le film.
Mais peut-être aussi parce que c'est toujours très compliqué de faire des films où, commerciaux où on suspend l'identification. Je pense que c'est ça le grand problème qui est face à Ozon, qui est un problème que Visconti n'arrive pas non plus à surmonter. C'est-à-dire que Mastroianni, dans le rôle de Meursault, est beaucoup trop sentimental. On met des couches sur lui de maquillage. On le filme presque comme une espèce de mort-vivant. Il est toujours en train de s'essuyer le front. On voit vraiment, en fait, le personnage réfléchir à son rôle. Et je pense que là-dessus, même les frères Cohen avaient fait dans The Barber une sorte d'hommage un peu lointain au roman de Camus. Et c'est pour moi un de leurs plus mauvais films. C'est un film où vraiment le personnage voit sa vie défiler devant lui, son jugement, son procès, sans aucune espèce de d'émotion. Et là, je trouve que quand même, Ozon regarde son personnage. Il a eu la très bonne idée d'aller chercher Bresson. Il a offert à l'acteur les notes sur le cinématographe. Et il y a cette phrase dans les notes de Bresson, qui est un livre de 1975, modèle, c'est comme ça qu'il appelle ses acteurs, et il s'adresse au cinéaste. Tu l'éclaires et il t'éclaire. La lumière que tu reçois de lui s'ajoute à celle qu'il reçoit de toi. Et pour moi, ce côté un peu astral, cette espèce de lumière que projette Benjamin Voisin, je trouve que Ozon non seulement sait la recevoir, il sait éclairer ce corps, il sait projeter de la lumière sur ce corps, et tout à coup la dimension désirante du personnage de Meursault, qui était complètement absente du film de Visconti, est assez éclatante. Moi, c'est un roman que je trouve assez fascinant, et je trouve très fort d'avoir mis en regard l'écriture blanche, hein, pour simplifier, et cette voix blanche, ce corps un peu qui ne joue pas du personnage de Benjamin Voisin.
Est-ce qu'on l'entend la phrase de Camus dans ce film-là?
Ah oui, bien sûr. Oui, elle intervient après le meurtre, en l'occurrence. C'est le déclenchement du relais sur le roman. Mais je vais rebondir un peu sur ce que dit Charles et qui, en fait, me permet une belle transition vers un sentiment que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'ai quand même trouvé que le film était très dérangeant. Parce que Charles insiste sur la façon dont le film, en fait... Pour le retraduire dans mes mots, parce que j'ai vraiment pas tout à fait le même ressenti, je trouve que le film est à la gloire de son acteur. Il est à la gloire de Benjamin Voisin. Et moi, il y a quelque chose qui me dérange énormément, parce que c'était déjà quelque chose qui me dérangeait dans le roman, c'est que le film, en fait, sauve son personnage sur le plan moral. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez une rencontre avec une figure de l'Église, et on comprend que c'est notamment par rapport à ça que toute la réflexion philosophique de Camus dans sa modernité, évidemment, s'adresse à l'Église et ne cherche pas forcément à le sauver sur le plan des actes, mais plutôt lui donne raison dans son dialogue moral de conscience avec la religion. Et il se trouve que c'est un peu la même chose ici. Et moi, j'ai l'impression de me retrouver moins dans une adaptation Camus que dans du cinéma français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en vois beaucoup des films comme ça qui sont constamment à la gloire de leur acteur, qui sont toujours les mêmes. J'ai envie d'associer Benjamin Voisin à François Civil, j'ai envie de l'associer à Raphaël Quenard, j'ai envie de l'associer au frère Kircher, j'ai envie de l'associer au gamin qui joue dans Vingt Dieux. En fait, c'est toujours les mêmes personnages qu'on va mettre en avant. Et on en oublierait presque qu'en fait, le regard de Camus est daté. Et ce sujet est extrêmement daté. On est en 1942 dans une société coloniale avec des personnages d'arabes. Et moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'on ne s'en sortirait pas avec des compromis sociétaux en mettant un petit peu plus en avant le personnage de la sœur, donc de la sœur de la victime arabe, et le personnage de l'arabe qui va avoir un prénom qui s'appelle Moussa ici, ce qui n'était pas le cas. Je crois que Moussa, c'est chez Meursault contre enquête, mais je crois qu'il le
reprend. Il est aussi dans le...
Il le reprend, hein, c'est ça. Ouais. Mais c'est à la marge, c'est extrêmement... C'est presque pour se dédouaner d'un point de vue un peu narcissique. Moi, j'aurais aimé que le film soit vraiment de 2025 et quelque part fasse le procès de Camus. Mais c'est pour ça tout à l'heure que je parlais d'homo-érotisme, c'est pour ça que je parlais d'intention, je parlais de libido. Ça ne m'aurait absolument pas dérangé que le regard de François Ozon s'empare de cette œuvre-là et nous dise, mais bien sûr qu'il y avait quelque chose de dérangeant en fait dans cette histoire où les Arabes n'étaient que des Arabes sans prénom. Je veux dire, 2025 sert aussi à jeter un regard sur le temps qui a passé, sur ce qui est daté. Et je trouve que le cinéma français, c'est là que je l'associe à cette tendance, ne sait pas du tout donner de regard aux personnages d'Arabes. J'aurais honte d'aller voir ce film avec un ami arabe. Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes personnages qu'on montre dans le cinéma français. C'est toujours le même point de vue. C'était quand même l'occasion, non pas de réactualiser, je déteste ce mot, ni de mettre à jour. C'était l'occasion d'interpréter.
Ou d'assumer cet angle mort, ce que le film ne fait jamais. Parce qu'il essaye quand même de lui donner un
prénom. Par des compromis sociétaux.
Dernier mot rapide peut-être sur le personnage de Marie, hein, joué par Rebecca Marder. Elle prend beaucoup plus d'importance dans le film que dans le roman. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette figure féminine, selon vous, Charles?
Alors, pour moi, pas grand-chose. Je pense qu'il y a la dimension christique, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'à nouveau, ça, c'est vraiment la partie la plus balourde du film. Tout à coup, Benjamin Voisin, avec sa barbe, avec ses cheveux longs, enfin, tout le côté antéchrist du personnage. Et puis, cette espèce de mise au monde symbolique. Il ajoute un graffiti avec un sexe de femme. Il en caresse l'orifice. Pour montrer vraiment la mise au monde du personnage. C'est là où le problème, c'est que Ozon essaie de faire tous les films. Et en faisant tous les films, il n'en fait un peu aucun, malheureusement.
Bien, chères auditrices, auditeurs, allez donc vous faire un avis. L'étranger de François Ozon sort en salle aujourd'hui.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
On poursuit notre programme 7e art du jour avec le film de Benny Safdi, Smashing Machine, qui était en compétition officielle à la Mostra de Venise cette année. Nous suivons Mark Kerr, interprété par Dwayne Johnson, légende du MMA des années 90, surnommé The Smashing Machine. De cette grande figure du free fight, Benny Safdi réalise non seulement un portrait hommage, mais il explore aussi l'humain sous les muscles.
Please welcome in his octagon debut.
Guy is the best he has ever seen.
What are you thinking at the beginning of the fight?
It's simple. Am I going to hurt him before he hurts me?
Come on, baby. Too much?
Never.
Too
Never.
Much?
No.
Winning is the best feeling there is. So I think
it's 40,000 people, yeah, and they're cheering you on. There's no other high like it in the world.
Hate each other when you fight?
Absolutely not.
Yes, there was a time. I'm sure you knew.
Ah, Elvis, moi ça me fait toujours le même effet. Charles, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ?
Pour moi, c'est une expérience plastique, sonore, absolument fascinante. Je crois que je suis toujours pas sorti de ce film et ce sera peut-être pour moi le film de l'année.
Ouais, Adrien Desnouettes, un avis rapide. Ouais, là, il
trop
faut enchaîner.
Trop bien, débat, ouais. En vrai. Je suis d'abord extrêmement séduit, notamment par la performance quand même de Dwayne Johnson. Faut le dire, c'est la meilleure de sa carrière. Là, il y a absolument aucun doute. Par contre, il manque quelque chose de très important au film. C'est un auteur, parce que l'auteur, à la moitié du film, part prendre un café et ne revient plus jamais. Et ça me déçoit énormément. Je suis vraiment très déçu. C'est un très très beau gâchis pour moi.
Charles, peut-être avant de commencer ce débat qui s'annonce après, est-ce que vous pourriez nous replacer ce film-là dans une généalogie des films de combat ? Est-ce que c'est un film de combat ? Est-ce qu'on peut le définir comme ça ?
Alors, je pense que c'est peut-être une des raisons de l'échec du film, hein, qui pour l'instant est cuisant, puisque le film a l'air de perdre, je sais pas, 30 millions de dollars. Donc voilà, c'est pas Rocky. C'est-à-dire, ça n'est pas un rise and fall.
L'échec,
ça n'est pas un film.
L'échec est aux États-Unis. Hein,
l'échec est aux États-Unis.
France,
mais j'ai l'impression qu'en France, on a peur du film. Il y a une citation qui dit un grand film de combat. Non, le film n'est pas un grand film de combat. Je pense que s'il fallait lui trouver une généalogie, il faudrait aller voir du côté du film avec Humphrey Bogart qui s'appelle Plus dur sera la chute, qui était un film vraiment sur un catcheur, un boxeur grand, géant, dont la mafia essaye de faire une star, mais il n'a aucun talent pour la boxe et on engage Humphrey Bogart comme une sorte d'impresario journaliste véreux qui va en faire un petit peu l'éloge. Et c'est un film vraiment sur les coulisses, sur le brouhaha de ce monde. C'est adapté d'un roman de Bud Schulberg qui travaille avec Elia Kazan, qui est extrêmement presque documentaire. Et les fondations de ce film sont poux. C'est justement un documentaire de 2002 qui s'appelait déjà The Smashing Machine, fait par John Iams, et qui était et dont Safdi va reconstituer, mais de manière maniaque, et on va discuter un peu pourquoi, hein, vraiment comme Haneke faisant Funny Games ou Gus Van Sant faisant Psycho, c'est-à-dire vraiment des fois les cadrages, les costumes, le pouls, toute la structure scénaristique épouse vraiment les courbes du documentaire. Et je pense qu'il faut vraiment aller chercher le plaisir de ce film dans cette espèce de côté presque comme du jazz improvisé. C'est Coltrane qui disait, moi je commence mes phrases au milieu, le John Coltrane, et je pars dans tous les sens, ou je les poursuis dans tous les sens. Le film, pour moi, a cette force-là, on peut avoir l'impression qu'il rame. En réalité, on est toujours dans le cœur de la machine, et on en reparlera après, dans des tresses extrêmement complexes de sons et d'images.
Adrien, alors l'auteur est parti boire un café, mais à quel moment pour vous le film, vous avez dit être séduit au départ et puis après plus du tout, qu'est-ce qui se passe en fait ?
Mais je suis sincèrement curieux de la suite de ce qu'a nous raconté Charles, parce que moi pour le coup le cœur du film, je ne l'ai pas, je ne le saisis pas. Et je pense qu'effectivement, il se dissout dans cette démarche très documentaire. Et à un niveau, mais ce que j'allais dire est presque insultant pour le documentaire, ce qui est faux, le documentaire a évidemment sa dramaturgie, et les bons documentaires ont toujours leur dramaturgie, même des Rise and Fall. Et il se trouve que, en fait, on atteint un tel niveau de fétichisme et de perfectionnisme dans la reconstitution de cette époque, qui est une des grandes forces, quand même, soulignons-le, du cinéma des Safdi depuis le début. Hein. Mmh. C'est-à-dire que même quand ils vous font un film contemporain, les frères Safdi sont excellents à vous trouver une authenticité dans un New York qu'on pourrait croire vitrifié ou quoi. Ils vont toujours vous trouver de l'authenticité quelque part. Tout simplement parce qu'ils s'entourent des meilleurs décorateurs, des meilleurs accessoiristes, des meilleures costumières. D'ailleurs, la costumière des frères Safdie travaille sur ce film et travaille sur celui du prochain de Joshua. C'est un génie de son art. Et je retrouve ce génie-là. C'est-à-dire que toute la première moitié du film, j'ai l'impression que tout le film est taillé autour du corps de son interprète, de Dwayne Johnson, qui est vraiment. Ne serait-ce que, je suis déçu par le film, mais je ne dissuade pas pour autant les gens de ne pas aller le voir. Je veux dire, allez quand même voir ce que fait Dwayne Johnson de son corps, de son visage, de ce qu'on fait de ce vieillissement-là. Et c'est là que le gâchis pour moi est quand même patent. Je veux dire, il est évident. C'est qu'en fait, vous avez l'une des rares superstars du cinéma d'aujourd'hui qui serait capable de vous faire un film de combat. Tout simplement parce qu'il en vient, en fait. Il vient du catch. Donc, il saurait très bien s'adapter pour faire des combats. Déjà, les acteurs savent très bien le faire. Mais alors, en plus, quand vous avez Dwayne Johnson, j'ai envie de vous dire, ne crachez pas dans la soupe. Et il se trouve qu'en fait, le film ne va jamais cesser de filmer depuis l'extérieur du ring. Alors, il va faire des zooms et tout, mais ils insistent toujours sur le fait que, non, nous ne sommes pas dans Rocky, certes, mais surtout dans Raging Bull. En fait, la vraie parenté, la vraie hérédité du film, du cinéma des Safdie, c'est surtout Martin Scorsese qui a été leur producteur. Et, non, nous ne sommes pas du côté de Raging Bull. Non, nous n'allons pas, en tout cas, Benny Safdie ici ne va pas faire des prouesses dans le spectaculaire de la mise en scène des combats. Et c'est dommage. En fait, c'est dommage parce que, certes, c'est pas l'enjeu du film, mais je ne le trouve pas par ailleurs, l'enjeu du film. À la moitié du film, c'est-à-dire cette espèce de, je ne comprends pas ce que ce film-là essaie de me raconter que ses précédents n'auraient pas raconté. C'est-à-dire The Wrestler d'Aronofsky, c'est-à-dire Foxcatcher de Bennett Miller, c'est-à-dire Raging Bull. En fait, l'anti-spectaculaire devient un espèce de gros gâchis. Tout simplement parce que tout ce qui est semé dans la première moitié du film, et une fois encore, auquel j'adhère, même si c'est pas très original, ne se convertit jamais. Et tout à l'heure, Charles utilisait le terme de ramer, de radoter, de répéter. Bah, désolé, mais moi, je reste sur ce radeau-là, ouais.
Charles, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt un film sur le déclin? En fait, ce qu'il filme, c'est une chute?
En fait, c'est un programme narratif.
Pas vraiment, c'est ça le problème.
C'est un programme narratif qui est très clair, qui est énoncé dès le départ. C'est un personnage qui ne conçoit pas, qui ne peut pas intellectualiser l'échec. Et en fait, tout le programme narratif du film, qui est presque ce qui m'intéresse le moins tellement c'est dessiné, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, ce qui est étonnant, c'est que ce personnage, avec cette voix très grave, est toujours en train de d'émettre. On a l'impression d'une espèce de podcast comme ça. Et le personnage est toujours en train de parler. Et ce que fait très... Alors, moi, je dirais que la généalogie, si on remonte encore au-dessus de Scorsese, c'est presque Cassavetes. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de forme très libre qui va tresser à la fois de la musique jazz, la jeune belge Nala Sinéfro, qui donne vraiment une espèce de partition comme ça très méditative, qui va s'entrechoquer avec une sorte d'Americana un peu cuite, un peu lessivée. On écoutait tout à l'heure Elvis qui chante My Way, mais c'est un Elvis boursouflé qui transpire, qui est complètement épuisé à Honolulu. Et donc c'est justement ce dessin-là d'aller travailler sur est-ce qu'on peut encore trouver de la sentimentalité, de la vérité, de la douceur dans cette Americana complètement épuisée. Et pour moi, le film épouse les courbes du documentaire qui commençait comme un film sur le monde du MMA qui est clos et qui vraiment trouve ses règles, etc. à la fin des années 90 et jusqu'aux années 2000, et avec Trump fera l'année prochaine, fêtera ses 80 ans à la Maison Blanche avec un combat de MMA. Donc il y a une espèce comme ça d'inconscient du film qui nous montre une espèce de bulle qui est en train d'arriver, et dans le documentaire et dans le film, le personnage fait une overdose et tout à coup on est obligé de changer de film. Et là ça devient absolument fascinant, c'est-à-dire que de ce portrait d'un sport et d'un boxeur, on tombe sur autre chose. Et quand il se réveille, on lui dit, il est quelle heure? Quelle heure, c'est quel est notre président? Et il répond Ronald Reagan. Et là, le film a quelque chose un peu de presque comme un oracle et annonce d'une certaine manière toute l'industrie qui va se construire, tout le monde politique qui est en train de changer. Et je trouve que ce que fait Benny Safdie avec beaucoup, beaucoup de talent, c'est qu'il parle de son époque tout en faisant un portrait fétichiste de la fin du XXe siècle.
Adrien, peut-être sur les autres relations, qu'est-ce qui se passe autour du ring, la relation avec sa femme, par exemple, est-ce que ça fonctionne mieux?
Non, bah ça fait partie des gros problèmes. C'est qu'en fait, la femme est un personnage de sacrifié, un petit peu comme on parlait tout à l'heure des personnages d'arabes chez Ozon. C'est-à-dire qu'il y a toujours des grands sacrifiés dans le cinéma. Je trouve qu'en ce moment, il y a quand même des figures très sacrifiées. Et il se trouve que ce personnage était super. Il est joué par Emily Blunt. Donc c'est là, pour recadrer un petit peu, c'est la compagne pendant toute l'histoire du récit de Mark Kerr. Et il se trouve que c'est aussi le film va. C'est pour ça que je cite quand même un peu Raging Bull et je cite quand même un peu tous les référents. C'est-à-dire tout ce à quoi, après quoi il arrive. Vous avez toujours cette espèce d'aller-retour, vous savez, entre ce qui se passe entre le ring, ou en tout cas entre les hommes, cette espèce d'homo-société, où voilà, on est entre nous, et puis la camaraderie, tout ça, et puis ce qui se passe avec les femmes, comment tout ça vient alimenter ou pas, ou arrêter la machine. Et ça s'appelle quand même une espèce de machine, donc c'est comment on relance, comment elle s'arrête. Et donc, ce personnage est très intéressant. Et je trouve que d'ailleurs, Emily Blunt, là aussi, est peut-être dans un de ses meilleurs rôles de l'histoire de sa carrière.
Sauf qu'à un moment, aux trois quarts du film, magnifique.
À un moment, aux trois quarts du film, le personnage est lourdement chargé sur le plan de la culpabilité et ne devient plus rien d'autre. Et je pense qu'en fait, c'est ici le problème. Moi, qui vraiment que je vais mettre sur le plan, je comprends, enfin, je peux, à la limite, je peux comprendre le ressenti de Charles. Mais moi, il y a un moment où il y a une faillite, il y a quelque chose où il est fautif, c'est sur le plan moral. C'est-à-dire que, il y a un moment, en fait, ce personnage devient très, très, très pathétique. Aussi dans le fait d'être en désaccord total avec son époque. C'est-à-dire en décalage total. À un moment, il a cette phrase, et je m'appuie sur ce que disait Charles tout à l'heure. Vous savez, pour moi, Reagan sera toujours notre président. Il y a l'idée que, quelque part, le MMA, même jusque dans ses fantasmes de puissance et tout ça, et reste campé dans la mythologie des années 80 et d'une Amérique puissante. Très bien, certes. Ça a déjà été raconté mille fois partout, mais certes. Et là, en fait, le film devient pathétique, parce que son personnage l'est. Il était déjà au début, on comprenait que c'était le plus intéressant, mais il refuse de devenir dérisoire. Il refuse de jeter un voile de dérision sur cette masculinité-là et cette espèce de résistance à ses idéaux puérils. Et donc, en fait, le film devient compatissant. Et c'est là que je lui reproche d'être médiocre. Parce qu'en fait, qu'est-ce que s'appelle ce que j'appelle cette compassion? Et c'est là que je dis qu'elle est documentaire. C'est qu'en fait, il arrive jamais à se détacher, je pense, d'un rapport d'amitié, même de fidélité, de loyauté au vrai Marker qu'on va retrouver. Alors, désolé, je spoil un peu, mais qu'on va retrouver à la toute fin. Il se trouve que Marker, il existe toujours. C'est pas un vieux monsieur. Il est dans sa cinquantaine. Il a évidemment arrêté de combattre. Mais en fait, le film est fait avec lui. Et vous savez, c'est un peu comme ces phrases toutes faites, très consensuelles de « on ne rit pas contre, on rit avec ». Mais pour moi, non, c'est pas vrai, en fait. Quand vous faites un biopic, qu'il soit classique ou moderne, on s'en fout de la personne. Qu'il soit vivant ou pas, non, c'est une interprétation. Et ou bien vous traitez d'un thème, ou bien vous tirez le personnage sur quelque chose. Et je dirais que c'est ça. Ce biopic, il est ni classique ni moderne, il est juste académique.
Charles.
Mais pour moi, il épouse à nouveau toutes les courbes très surprenantes du documentaire de 2002, dans lequel le personnage de Dawn, qui est la compagne de Marker, est un personnage hyper négatif.
On n'a pas vu le documentaire de 2002, Charles.
Oui, mais Charles l'a vu.
Oui, mais pas nous quand on va voir Smashing Machine.
Justement, la différence qui est énorme, c'est que dans le documentaire, c'est un personnage qui est extrêmement négatif, qui est vu vraiment comme un personnage qu'il faut éjecter du cadre. Et en fait, ce qui est très beau dans le film qui sort aujourd'hui, c'est que cette mise de côté, elle est scénarisée, elle est montrée, elle est problématisée. C'est-à-dire qu'il y a une scène magnifique où on dit tiens, prends-nous en photo, et on la met sur le côté du cadre. Et on a besoin d'éjecter ce personnage. Il y a aussi une scène dans une fête foraine où on voit que ces deux personnages ne sont vraiment pas du tout dans le même espace. C'est-à-dire que c'est le film de Marker, c'est le film de Dwayne Johnson, et elle est là comme ça, toujours avec cette espèce de volonté de monter sur le ring, d'essayer d'y rester. Là, on retrouve à nouveau effectivement des problématiques très scorsésiennes, c'est-à-dire ces personnages féminins qui tout à coup essayent un peu de survivre dans l'ombre des hommes. Et je trouve que le film, contrairement au film d'Ozon avec le personnage de l'arabe, là je trouve que le film en fait vraiment quelque chose, et que cette empathie pour le personnage de Marker devient vraiment très 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 poétique et très forte dans le film, et que cette reconstitution permet vraiment de remonter dans le temps et de retrouver les textures de ce monde un peu perdu.
Eh bien, montons tous sur le ring et allons voir Smashing Machine de Benny Safdie. Il sort en salle aujourd'hui. Adrien Desnouettes et Charles Bosson, merci beaucoup à tous les deux. Et comme toujours, toutes les références de ces deux films sont sur la page des Midi de Culture sur le site de France Culture.